La simplification de la procédure civile est un des axes majeurs de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Thomas Andrieux, vous êtes directeur des affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice. Quelles sont les principales mesures prévues par la loi du 23 mars 2019 en matière de simplification de la procédure civile ?
Une réforme du divorce d'abord. Le divorce contentieux sera à la fois beaucoup plus rapide et en même temps avec de meilleures garanties de protection pour les personnes qui divorcent et bien sûr pour leurs enfants. Ensuite, une réforme du droit des majeurs protégés, les tutelles, avec à la fois plus de droits fondamentaux pour les majeurs protégés, ils pourront voter, ils pourront aussi sans autorisation préalable se marier, se paxer. Et en parallèle, une grande simplification du contrôle fondée sur une confiance accrue envers les familles et un juge recentré sur le cœur de son office, la protection. Autre mesure, la juridiction nationale des injonctions de payer, qui sera en réalité un tribunal judiciaire spécialement désigné, elle aura une compétence nationale pour connaître toutes les requêtes en injonction de payer actuellement traitées par les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. Ça permettra une jurisprudence plus efficace, plus uniforme par des magistrats et des greffiers spécialisés, et ça déchargera de ce contentieux de masse l'ensemble des juridictions de droit commun. On peut évoquer également la Caisse des dépôts et consignations, banquier de l'État, à qui on va confier les saisies rémunérations ou la réception des sommes dont la juridiction a ordonné la consignation. C'est autant de temps libéré pour le greffier dont ce n'est pas le cœur de métier de faire un travail de banquier. Enfin, la possibilité de rendre des jugements sans audience lorsque les parties en sont d'accord. Ça permet d'adapter l'offre de justice à une demande des justiciables. Et ça sera également possible pour les petits litiges dans le cadre d'une procédure exclusivement numérique. Et on en attend simplicité, fluidité, réduction des coûts et rapidité, bien sûr.
Pourquoi fallait-il simplifier la procédure civile ? Et qu'est-ce qui a inspiré ces réformes ?
Dès 1998, le rapport Coulon évoquait une crise de la justice civile dans sa triple fonction de production, de symbole et de régulation. Et toutes les réformes de la procédure civile se sont données pour but d'adapter la justice de première instance aux évolutions de la société. Le rapport Guinchard, en 2008, invite à concilier le développement du traitement des contentieux de haute technicité, qui impose une forme de spécialisation, avec la nécessité de rendre une justice plus lisible et plus proche du justiciable. En 2013, c'est Pierre Delmas-Goyon qui invite à s'interroger sur la plus-value de l'intervention du magistrat. Dans quel contentieux, dans quelle procédure, dans quelle situation l'intervention du magistrat est justifiée et dans quel domaine elle l'est moins. Tout ça est indissociable de la question, par ailleurs, de l'organisation judiciaire. Et le rapport Marshall, de 2013 également, pose bien la question d'une juridiction unique de première instance unifiée. Et c'est dans ce contexte que la garde des Sceaux lance, dès sa nomination, un chantier procédure civile confié à Frédéric Agostini, président du TGI, et Nicolas Molfessis, professeur de droit privé, invitant à d'abord recentrer le juge sur son cœur de métier et son office juridictionnel, de réduire la distance avec le justiciable, et trois, assurer la qualité et l'efficacité de la décision de première instance. Et la particularité de la loi de programmation de la justice, c'est de mettre en avant tous ces défis et de mettre en lien le budgétaire, l'organisationnel et le procédural, tout ça dans un contexte radicalement nouveau qui est le numérique.
Le développement des modes de règlement amiable des différends est un axe essentiel de la loi du 23 mars 2019. Pourquoi fallait-il les réformer et quelles sont les principales dispositions ?
La loi généralise le pouvoir d'injonction dont disposent les juges pour renvoyer les parties devant un médiateur lorsqu'il estime que c'est de nature à apporter une meilleure solution au litige. Par ailleurs, elle étend l'obligation, dans des petits litiges, d'avoir recours à une tentative préalable de médiation, de procédure participative ou de conciliation. Mais la loi veille bien à préciser que, en l'absence de conciliateur de justice, les parties sont dispensées de cette obligation. Enfin, pour la première fois, le législateur crée un dispositif de certification des plateformes qui offre un service de médiation, de conciliation ou d'arbitrage en ligne pour donner aux consommateurs de services juridiques des garanties, notamment en matière de procédure et de protection des données personnelles. En développant les modes alternatifs de règlement des litiges, cette réforme vise à une société plus apaisée.
La loi de programmation et de réforme pour la justice modifie également la procédure de divorce.
Toute la procédure applicable au divorce contentieux a été revue en profondeur afin de permettre que le juge aux affaires familiales statue dans des délais raisonnables. En effet, en 2017, ces dossiers ont été traités en 29 mois en moyenne. C'est tout à fait excessif et ça génère des difficultés pour les familles. Le nouveau dispositif met fin au système de la double saisine. Avant, on avait une requête, puis une assignation. C'était très mal compris. Aujourd'hui, il n'y aura plus qu'un seul acte de saisine, l'assignation, en début de procédure, et une seule phase procédurale. Chaque partie sera assistée dès le début d'un avocat pour mieux protéger ses droits. En revanche, comme aujourd'hui, et dès le début de la procédure, le juge pourra toujours prononcer toutes les mesures provisoires nécessaires, et notamment celles qui permettent de protéger les enfants. C'est donc une réforme qui va mieux protéger les droits des personnes, tant par la présence de l'avocat que par la réduction massive des délais.
La loi du 23 mars 2019 étend les cas de représentation obligatoire par un avocat. Cela ne risque-t-il pas de porter atteinte à l'accessibilité de la justice ?
On veut défendre un accès utile à la justice. Et on ne veut pas laisser perdurer l'illusion pour les justiciables qu'ils peuvent efficacement se défendre sans avocat dans des contentieux extrêmement techniques. La loi traite ainsi de deux cas spécifiques. Le premier, c'est le juge de l'exécution, où on va imposer la représentation obligatoire, sauf en matière d'expulsion et lorsque la demande est inférieure à 10 000 euros. On va également étendre la représentation obligatoire par avocat en matière douanière, contentieux également très technique. Mais je voudrais rassurer, il n'est pas question d'étendre au contentieux de l'instance la représentation obligatoire par avocat.
Le texte prévoit aussi la possibilité de règlement des litiges sans audience. Dans quel cas cela sera-t-il possible ?
La loi du 23 mars 2019 introduit deux possibilités nouvelles. La première, c'est la possibilité de juger les contentieux relevant du tribunal de grande instance sans audience, à l'initiative des parties et avec leur accord express. Cette possibilité sera ouverte après que les parties ont pu faire valoir et échanger leurs arguments et leurs pièces par écrit. Le tribunal pourra toujours décider de la tenue d'une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. Je donne un exemple. Un justiciable souhaitant voir son affaire jugée doit pouvoir faire le choix de ne pas poser une journée de congé. L'exemple d'un étudiant qui vivant désormais à Toulouse, par exemple, et souhaite récupérer en justice sa caution du logement qu'il a occupé à Rennes, où il a fini ses études, est une situation très courante. Elle a vocation à être concernée par ce genre de procédure sans audience. L'autre innovation de la loi, c'est la possibilité de régler ce qu'on appelle les petits litiges, moins de 5000 euros, de manière intégralement dématérialisée, c'est-à-dire sans audience et complètement en ligne. Cette possibilité sera ouverte au plus tard, au 1er janvier 2022.
Dans la loi du 23 mars 2019, il y a également des dispositions relatives à l'open data.
Cette loi clarifie le droit applicable à l'open data, c'est-à-dire qu'elle réalise une conciliation que le Conseil constitutionnel a parfaitement validée entre d'une part une exigence démocratique, qui est la publicité des décisions de justice, et d'autre part une exigence qui est de même valeur, constitutionnelle, la protection des données à caractère personnel. Je donne un exemple. Devant les juridictions judiciaires, le principe désormais, c'est bien sûr la mise à la disposition du public des décisions à titre gratuit et sous forme électronique, mais les noms et prénoms des personnes physiques seront occultés lorsqu'elles sont parties ou tiers, et les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne pourront faire l'objet d'une réutilisation qui aurait pour objet d'évaluer, d'analyser ou de comparer leurs pratiques. Mais la problématique de l'open data va au-delà de la communication des décisions de justice aux tiers. La question qui est posée est celle de la constitution d'une base unique de jurisprudence avec l'ensemble des décisions prises par l'ensemble des juridictions judiciaires en France. Comment exploiter au mieux pour l'intérêt général cette base sans violer la protection des données personnelles? Et mon sentiment, c'est que l'État doit se doter pour lui-même de capacités d'analyse. Oui, j'emploie le mot sans hésiter d'algorithme. Le magistrat de demain ne sera pas un algorithme, mais le magistrat de demain aura à son service des algorithmes.
Quand est-ce que les dispositions de la loi du 23 mars 2019 relatives à la simplification de la procédure civile entreront-elles en vigueur ? Et quels sont les textes d'application qui doivent encore être pris ?
Elle va entrer en vigueur pour l'essentiel au 1er janvier 2020, au moment de la création du tribunal judiciaire, et l'année 2019 sera donc consacrée pour la préparation des décrets d'application à des concertations approfondies. Pour conclure, cette réforme, c'est plus de rapidité, de simplicité, de lisibilité pour le justiciable. C'est un juge à l'office recentré, ce sont des modes alternatifs des règlements des différends plus attractifs pour chacun des Français. C'est plus de droits fondamentaux, notamment pour les personnes qui divorcent, plus de droits fondamentaux pour les majeurs protégés, et c'est enfin, et je dirais surtout, adapter la justice au numérique, offrir à chaque Français un service public de la justice de meilleure qualité.
Thomas Andrieux, merci. Pour en savoir plus, rendez-vous sur justice.gouv.fr.